La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Changer l'image des personnes qui travaillent dans le secteur du ménage, il existe une solution Elisabeth, l'entreprise s'appelle Artupox.
Oui, Artupox s'adresse aux chefs d'entreprise mais aussi à celles et ceux qui font le ménage, qui nettoient les bureaux, les toilettes, les salles de réunion, le tout avec des produits écologiques qui ne sont pas nocifs pour ceux qui les utilisent. Des salariés en CDI dans un secteur où la précarité et de mise. Et c'est une ancienne chercheuse en mathématiques qui en a eu l'idée. Bonjour Christelle Gimaret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Artupox International. Artupox, c'est quoi exactement? D'abord, ça veut dire quoi Artupox?
Alors, c'est l'art de tuer les pox, l'art de tuer les microbes en fait. Parce que je voulais un nom international, puisque dès le départ, je savais que j'irais un petit peu au-delà de nos frontières. Donc, je voulais un nom qui se dise dans toutes les langues. Voilà.
Alors c'est quoi?
Alors c'est une entreprise de propreté qui est destinée effectivement aux entreprises, on ne fait pas de particuliers, et qui a la particularité depuis 2005 de faire ce que l'on allait appeler aujourd'hui la RSE, le développement durable, de l'impact même. Donc comme vous l'avez expliqué, on utilise uniquement des produits écologiques, donc qui sont labellisés écologiques, voire biosourcés, puisque maintenant nos fournisseurs commencent à aller sur des produits encore plus écologiques. Et puis on a aussi un plan de déplacement qui ne pollue pas, puisque on ne se déplace qu'en transport en commun et sans charge, de façon à ce que nos cleaners, comme on les appelle, n'aient à effectuer que leur trajet eux-mêmes, c'est-à-dire jamais plus de 3 stations entre 2 clients. Donc ça implique que la ville ait un maillage de transport en commun qui tienne la route, c'est le cas de le dire. Et puis aussi, on fait en sorte que ces gens-là ne soient plus précarisés avec un contrat de travail qui soit solide et qui peut leur donner accès notamment au crédit, voire au crédit immobilier, parce qu'en France, il n'y a que le CDI qui prime.
Pour avoir un crédit. Alors justement, pour changer cette image, hein, image défaillante hein, des hommes et des femmes de ménage, alors je dis les hommes parce que vous embauchez beaucoup d'hommes.
Majoritairement des hommes.
Majoritairement des hommes qui vont nettoyer dans les entreprises, dans vos entreprises clientes. Et vous voulez aussi réinstaurer de l'interaction humaine, hein, des liens entre ces hommes et ces femmes et votre client, l'endroit où ils font le ménage. Donc vous avez choisi de les rendre visibles, vos salariés. Ils ne vont pas faire le ménage entre 5h et 7h du matin ou à partir de 21h le soir. Ils sont là dans la journée, pendant la journée.
Alors effectivement, en 2005, quand je crée mon entreprise, je m'aperçois que dans le secteur du nettoyage, ce sont des petites fées qui font le ménage la nuit, puisqu'on arrive le matin au bureau et hop, par miracle, tout est nickel. Donc du coup, je m'intéresse à ces petites fées et je me dis, voilà, qui sont ces gens-là? Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont dans la précarité, qui n'ont pas de vie sociale. Parce que quand on travaille la nuit et quand en plus votre employeur vous donne une amplitude horaire de quasiment 14 heures par jour pour au final n'avoir même pas l'équivalent d'un SMIC, bah, vous passez votre vie à dormir ou vous déplacer.
Donc vos employés, on les voit dans les entreprises et ils font quasiment partie de l'entreprise. Au-delà de leur travail, de ce qu'ils ont à faire, ils font partie de l'entreprise.
Alors ils font partie intégrante de l'entreprise cliente. D'ailleurs souvent ils disent même pas je travaille chez Artupox, ils disent je travaille chez...
C'est un peu comme des consultants dans le principe.
Ouais, sauf que c'est beaucoup plus vertueux que la SS2I quand même, hein, qu'on soit bien clair.
Pas toutes.
Non. En fait, ils ont effectivement leur seule appartenance, leur seul lien, c'est leur contrat de travail et leur fiche de paye qui effectivement sont distribués par l'entreprise.
Votre entreprise, ouais.
Mais après, effectivement, leur lieu de travail, c'est chez nos clients, avec les mêmes horaires que notre client. Et comme en plus, on ne travaille qu'avec des entreprises qui sont intramuros, qui souvent sont quand même des très jolis lieux, eh bien, pour la première fois de leur vie, non seulement ils font partie intégrante d'une entreprise, donc pour la première fois de leur vie, ils ne sont plus en travailleur isolé, mais ils ont des collègues, les collègues étant nos clients, parce que bah, y a un moment donné où, tiens, la dame ou le monsieur qui fait le ménage, bah, on va lui parler, on va s'apercevoir qu'il ne mord pas, et que voir qu'il a une vraie vie, qu'on peut lui poser des questions sur ses enfants, sur ses loisirs, s'il en a, etc. Donc du coup, ils font vraiment partie intégrante. D'ailleurs, ils sont même invités aux arbres de Noël, où on a même des clients qui demandent quand c'est leur anniversaire pour le fêter.
Gilles, notre coach.
Je suis heureux de vous retrouver 3 ans après, puisque j'étais dans le jury il y a 3 ans du prix MR21 de l'innovation managériale responsable que vous avez gagné. Et justement, parmi la performance liée à cette approche sociale, il y avait le turnover qui est très faible. Les prud'hommes qui étaient très faibles aussi. Vous en avez eu 3 dans toute votre carrière, parce que j'avais noté à l'époque. Et puis les arrêts de travail bien inférieurs à la norme. Donc cette démarche est performante pour l'entreprise. Le modèle est intéressant. Est-ce qu'il y a un essaimage de ce modèle? Est-ce que vous avez ouvert des vocations?
Alors, ce modèle, non seulement il est performant, mais il est scalable. Donc là, on vient d'ouvrir Montréal, par exemple, après avoir ouvert Stockholm et Copenhague. C'est un modèle qui est entièrement duplicable partout dans le monde, parce que partout dans le monde, la propreté, on veut pas la voir, on veut pas en entendre parler. Donc, il est temps que les mentalités changent, et on s'aperçoit qu'on a un très bon accueil sur ces changements de mentalité. Et puis, il y a aussi le fait que, quand vous avez une entreprise qui a peu de turnover, vous avez une entreprise qui est beaucoup plus performante. Donc, si elle est plus performante, ça veut dire que vos salariés sont impliqués, et s'ils sont impliqués, ça veut dire que chez le client, ça se passe très bien. Donc, le client est content. Donc, le client, il n'y a pas de turnover non plus du côté du client. Et ça, c'est quand même important de le noter parce que nous, on a un turnover qui est epsilon et il doit approcher les 1, voire peut-être 2%. En même temps, sur 140 salariés, ça fait vraiment pas beaucoup. Quand dans le secteur, c'est quasiment 50, voire 60%.
Alors, côté salarié, tout va bien. Côté produit, c'est pas encore totalement fabriqué en France. Hein. Je crois qu'ils sont... Ça, vous n'avez pas encore réussi.
Alors, je pense pas, malheureusement, que la France, pour l'instant, ait le monopole sur l'écologie. Mais il y a des pays qui font ça très très bien, notamment je pense à l'Allemagne ou la Suède.
Donc pour l'instant, vous ne travaillez pas encore avec des produits made in France, mais peut-être.
Lorsqu'ils seront sortis, je serai très très contente de travailler avec.
On va vous donner quelques adresses.
Alors, il en existe, mais souvent, ils ne sont pas destinés au grand public en fait. C'est ça le souci. C'est que il y a une notion aussi de rentabilité dans l'entreprise. Et lorsque vous avez des produits qui sont en package individuel déjà au niveau écologique, c'est une catastrophe parce que vous avez beaucoup d'emballage. Et puis surtout, quand il est vendu 6 fois plus cher au litre, c'est pas possible.
On va travailler là-dessus.
Ouais, on va travailler.
Et je suis sûre qu'on va trouver des choses. Merci beaucoup, Christelle Gémaret, d'être venue nous parler d'Artupox International. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1.
Et on reste ensemble. On va s'intéresser à l'hôtellerie parce que c'est un secteur en plein renouveau avec des familles et des entreprises françaises. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Midi 14h.
La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on a choisi de vous montrer le verre à moitié plein. Il n'y a pas que dans notre pays des gens qui râlent. Non, il y a aussi des gens qui avancent, qui prennent des risques, qui créent et qui n'hésitent pas à bousculer les codes. Ceux de l'hôtellerie, par exemple. Vous savez que la France s'est fixée pour objectif de recevoir 100 millions de visiteurs en 2020. Et pour les recevoir, eh bien, il va falloir des infrastructures. Certes, Airbnb a révolutionné le marché, mais il existe une hôtellerie de qualité française qui est en plein redéploiement. Bonjour Solène Devis.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé avec votre père le groupe OKO, ça s'écrit O2KO, groupe français indépendant d'hôtellerie 4 étoiles. Je crois que lui avait envie, après 15 ans passés dans le groupe Accor, de changer de vie, de faire son projet à lui. Et puis vous, en même temps, vous aviez aussi envie d'entreprendre. Et finalement, vous vous êtes rejoints.
Absolument. Alors effectivement, Olivier Devis avait passé 15 ans dans un des plus grands groupes mondiaux d'hôtellerie. Donc il connaît bien les rouages de ce métier. Et pour autant, quand il est parti à la fin, fin 2009, il avait déjà une analyse un peu sans concession du marché hôtelier et en tout cas de la façon dont, à l'époque, l'hôtellerie traditionnelle de chaîne accueillait ses clients. Et notamment, ce qu'il voulait absolument, c'était rétablir un rapport de confiance avec les clients de l'hôtellerie pour les ramener à l'hôtellerie un peu traditionnelle en leur proposant un rapport qualité-prix le plus juste possible.
Et c'est d'ailleurs en partant de ce constat que vous allez élaborer une offre différente.
Absolument. Donc la feuille de route qu'il m'a donnée, ça a été de dire bon, alors déjà les hôtels qu'on va construire seront en hyper centre-ville, puisque voilà, l'ère de la voiture est finie aujourd'hui avec l'effort du TGV notamment. Tout le monde commence à utiliser les transports verts. Donc pour ça, il faut privilégier des emplacements d'hyper centre-ville parce que c'est là que ça se passe. Or, le centre-ville, c'est cher, le foncier est très élevé, donc il va falloir être rationnel en nombre de mètres carrés. Donc l'idée qu'il a eue, ça a été de se dire, on va faire des chambres assez compactes, elles font 18 mètres carrés, là où dans l'hôtellerie 4 étoiles classique, on est plutôt à 25. En revanche, on va se démarquer par la générosité et on va se démarquer par la conception des espaces. Donc il m'a demandé d'inventer un club, un espace où le client se sentirait comme à la maison.
C'est-à-dire qu'il y a des espaces à vivre au sein de l'hôtel.
Absolument. Alors, il y a un seul et même espace à vivre. Le club, ça fait entre 250 et 400 mètres carrés. C'est un petit peu comme votre salon pendant votre séjour. Il est accessible 24 heures sur 24. Et dans cet espace, vous allez pouvoir prendre un thé, un café, faire un rendez-vous, piquer une BD dans la bibliothèque, un petit peu comme si vous étiez chez vous.
Alors, vous ouvrez votre premier hôtel à Nantes. On est en 2014.
Janvier 2014.
Et depuis, vous en avez ouvert 9 en 5 ans.
Absolument. Donc aujourd'hui, au Co-Hôtel, c'est 9 hôtels ouverts. On en ouvre 2 en 2020 à Toulon et à Lille. On en a 4 autres en construction. On a fait l'année dernière 28 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Avec 30% de croissance par an.
Voilà, 30% de croissance par an. Et à date, 150 collaborateurs. Il y en a tous les jours qui arrivent. Donc c'est un peu difficile de tenir les comptes.
Elisabeth, le marché de l'hôtellerie est important parce que ça marche plutôt bien en France.
Mais oui, parce que vous savez qu'on est toujours à la première place mondiale des destinations. Ça avait baissé un petit peu au moment des attentats en 2015, des attentats de Paris. Et là, à la fin de l'année dernière, malgré la crise des Gilets jaunes, notre pays se maintient à la première place du classement des destinations touristiques. Première place en nombre d'arrivées. 90 millions de touristes étrangers sont venus chez nous. Les hôteliers ont su capitaliser sur ces venues-là, notamment la clientèle d'affaires hein, qui est présente plus que jamais parce qu'il y a grâce à une légère reprise de la croissance économique. Un marché de congrès, de séminaires particulièrement actif. La saison d'été qui a enregistré de très très belles performances. En revanche, l'hôtellerie de luxe a un peu trinqué justement à cause de ces mouvements sociaux.
Que dit notre coach Gilles Vanderpoten?
J'ai relevé les propos de votre cofondateur qui disait effectivement ne plus supporter tous les suppléments qui font grimper l'addition. Donc il était sans concession sur l'état de l'hôtellerie, enfin son diagnostic en tout cas. Et donc j'ai fait une petite simulation sur votre site pour un week-end à Nantes et j'ai vu que petit déjeuner, apéritif et snacking étaient compris. Est-ce que c'est une opération rentable d'offrir du all-inclusive, du tout compris?
Alors absolument, là où on a été extrêmement disruptif, ça a été dans le choix de la générosité dans le 4 étoiles, donc quand même sur un segment haut de gamme. Donc nous, aujourd'hui, on offre à la totalité de nos clients le petit déjeuner, le snacking en journée et le soir, on vous invite à prendre l'apéritivo. Donc on vous offre un verre de vin ou une bière locale et un buffet de produits de la région, comme si on vous accueillait dans notre maison. Alors ça a plusieurs intérêts. Déjà, la satisfaction client. Très peu de clients qui viennent pour la première fois chez Ocohotel s'attendent à une offre aussi qualitative et aussi généreuse. Donc ça nous propulse sur les sites de réservation aux premières places. C'est central dans notre industrie aujourd'hui.
Oui, vous avez un bon score hein, sur TripAdvisor, j'ai vu. À Paris, vous êtes dans le top 255.
Absolument. C'est notre combat au quotidien et celui de nos équipes. C'est la satisfaction client. Donc, tous les matins, on lit la totalité des commentaires qui sont tombés dans la nuit et on y répond. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, finalement, le métier de l'hôtellerie.
Oui, c'est un des plus vieux métiers du monde.
Absolument. Tout à fait.
On reste ensemble et on continue à en parler ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et c'est parfois, vous allez le voir, l'attachement à un lieu qui nous invite à changer de métier. C'est ce qui s'est passé pour le fondateur d'H8 Collection. À tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré au renouveau de l'hôtellerie. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions à nos invités, c'est possible. Écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou appelez-nous Raphaël au 3921.
Vous allez dire que je suis chauvine, mais la France est probablement le plus beau pays du monde. Il existe chez nous des coins de paradis et ça n'est pas Jean-Philippe Cartier qui dira le contraire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de H8 Collection, chaîne d'hôtels de luxe. Et si vous avez aujourd'hui cette casquette-là, c'est parce que vous n'avez pas pu vous résoudre à voir disparaître un endroit qui était cher à votre cœur, en Camargue, le Mas de la Fouque.
Ouais, alors je ne sais pas si mon arrivée a permis qu'il ne disparaisse pas, mais en l'occurrence, non, c'était, comme vous le disiez, dans ma deuxième vie professionnelle. J'étais jeune et attaché à ce lieu, et quand on m'a proposé de le racheter, il y a de ça en 2011 ou 12 maintenant, je l'ai racheté en tombant sous le charme de ce lieu incroyable qui fait qu'à une heure d'avion de Paris, on peut être entre les flamants roses et les taureaux dans ce lieu magnifique qu'est la Camargue, et ça s'appelle le Mas de la Fouque. Voilà. Les premières acquisitions hôtelières à ce moment-là.
Première, une deuxième va arriver très vite. Hein. Les coups de foudre vont s'enchaîner, si j'ose dire. Le domaine des Hauts-de-Loire, c'est ça?
Voilà, devenu depuis les Hauts-de-Loire, parce qu'on est très fort en marketing. Donc, l'idée était la suivante, en fait. Il n'y avait pas vocation à en acheter sur le papier plus d'un. Après la vente de mon entreprise, je pensais que le Mas de la Fougue devait venir un peu l'hôtel des copains. Et puis je me suis pris au jeu et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on allait souvent très loin avec des hôtels, des groupes d'hôtels comme Six Sense, qui est très expérientiel, où tu vas à Oman et tu dis c'est fabuleux, il y a un écran en noir et blanc avec un film au bord de l'eau, et tu te dis on peut le faire chez nous en France et on peut faire des choses très bien en investissant. Donc comme j'avais ni envie d'aller vivre à Londres ni à Bruxelles, j'ai dit je vais réinvestir dans un pays que je trouve être le plus beau du monde, malgré toutes ses complexités. Et pour autant, plutôt que de faire ce que fait très bien ma voisine Oko, de l'hôtel urbain, je me suis dit on va aller dans des endroits où il y a quand même du monde, c'est-à-dire des touristes, et chercher des pépites. Et donc le deuxième s'appelle les Hauts-de-Loire. Je l'achète relativement rapidement parce que j'avais aussi un vieux souvenir, d'ailleurs que j'ai que des souvenirs. Mais quand j'avais 25 ans,
ah oui, mais il y a un attachement. Ouais, donc il y a une histoire.
Il y avait une histoire. Bah, c'est un endroit qui était un des premiers relais châteaux, qui est au bord des châteaux de la Loire, qui est un parc assez absolument merveilleux, qui était une belle endormie. J'achète ce deuxième et je me dis, bon, avec deux hôtels, ça devient un groupe. Donc je crée une filiale de mon holding personnel.
La Chuite Collection.
Ça s'appelle La Chuite Collection et je deviens hôtelier ce jour-là, en plus du reste.
L'idée, voilà. C'est quoi? C'est racheter justement des lieux dans des sites où le patrimoine est dominant et en faire des écrins, en faire des pépites, comme
c'est
vous dites.
Très bien dit. L'idée première est de se dire qu'on vit encore une fois dans un pays merveilleux, que le tourisme, et Dieu sait que j'ai des investissements et j'ai travaillé dans le digital, mais nous sommes avant tout un pays de touristes, on peut se raconter ce qu'on veut. Notre métier, c'est 9% du PIB, c'est un nombre d'emplois considérable. Et à partir de ce moment-là, je le défends assez au niveau des organes politiques. Et je considère qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les villes. Et il y a eu une forme de délaissement des hôtels dits de charme ou de luxe dans certains endroits. Je pense qu'il fallait juste les réopérer, réinvestir.
C'est-à-dire qu'on garde l'écrin, mais on le modernise.
En l'exemple des Hautes-Loires, c'est devenu un endroit qui avait un restaurant doublement étoilé, mais qui avait un petit peu souffert du temps, mais le spot et le lieu étaient incroyables. Ça devient un deuxième restaurant qui est un bistrot, parce qu'en maintenant, on n'a plus envie de dîner que gastro. Ça devient un kids club, parce qu'en papa de 44 ans, on a tous envie de laisser nos enfants dans un 5 étoiles. Une école de cuisine pour parents et pour enfants qui vous accueille n'importe quand vous arrivez. Il y a une salle de sport. Tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans une hôtellerie
C'est-à-dire
moderne.
C'est-à-dire des expériences autour du site.
Beaucoup d'expériences. Vous pouvez partir des Hauts-de-Loire, pardon d'insister sur celui-ci, mais en montgolfière, en départ de l'hôtel et faire les châteaux de la Loire. Vous avez mille expériences. En Camargue, c'est pareil. On a acheté l'hôtel du Mont-Blanc à Chamonix, qui est le seul endroit où vous êtes face au Mont-Blanc quand vous vous réveillez. C'est déjà une expérience en soi. Donc voilà, des lieux hors des sentiers battus.
La maison du Zès.
La maison du Zès, qui est un 5 étoiles monument historique.
Le Matisse à Paris, le Vieux Castillon. Voilà. Et puis on pourrait terminer avec l'Ermitage dans le Var à Saint-Tropez, par exemple.
Le Castel Beau-Site également à Perros-Guérec, qui est la dernière écrin, qui est au bord de l'eau, qu'on est en train de transformer. J'aime pas le mot moderniser, mais de mettre dans les codes contemporains. Peut-être que vous me voyez un très jeune homme.
oui, vous avez raison de le dire. L'essentiel, c'est d'être jeune dans sa tête. Je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge.
Aucun doute.
Elisabeth, cette tendance à s'affranchir des chaînes internationales, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur.
Mais oui, ça prend de l'ampleur. C'est un secteur, et on le dit là dans l'émission, c'est un secteur qui a évolué. Par exemple, auparavant, un voyageur recherchait un hôtel via le siège de sa compagnie. Et aujourd'hui, la liberté de le faire lui-même, sa propre réservation. Et il y a énormément de sites de réservation comme Booking, eBookers, il y a TripAdvisor, il y en a plein. Mais eux, ils utilisent la géolocalisation. Aujourd'hui, on peut, voilà, avec du bouche à oreille, en vous écoutant sur Europe 1, en parlant les uns avec les autres, on peut trouver son propre hôtel et construire son propre voyage. Et vous avez même des hôtels qui auparavant appartenaient à des grandes chaînes. Ils changent de nom et ils peuvent passer de 3 à 4 étoiles.
Que dit notre coach Gilles Van Der Potten ?
Je confirme que le domaine des Hauts-de-Loire est magnifique. Pour y avoir séjourné une fois
chance.
Il y a quelques années.
Un homme de goût.
Tout à fait. Et d'ailleurs, à proximité, il y a le magnifique domaine de Chaumont-sur-Loire avec son festival des jardins, auquel je vous invite. Enfin, je vous convie à y aller.
Touristique aussi, alors.
Tout à fait. et je me posais une question sur la conciliation du luxe et de l'écologie. Est-ce que votre clientèle fait partie de celle qui est la plus sensible et la plus proactive ou pas?
Alors,
à ces questions-là.
Moi, je vais répondre plus au niveau personnel. Je pense qu'on est tous concernés par ce sujet. Il n'y a qu'un abruti qui n'a pas conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, la question, je me la pose depuis déjà le Mas de la Fougue. C'est quand tu rentres dans un parc qui est le parc naturel de Camargue et que tu investis dans ce genre d'endroit, de facto, la question écologique se pose partout. Donc nous, c'est pas pour dire nous, on est meilleurs, mais on se pose cette question depuis le début. On n'est pas parfait, mais elle touche aussi bien l'actionnaire que je suis, le propriétaire, que les équipes, que tous les clients. On a eu encore une remarque. J'ai un peu hurlé il y a quelques jours parce qu'une bouteille plastique traînait dans un hôtel en Camargue, en Bretagne, et tu parlais de TripAdvisor tout à l'heure, et on a eu la remarque en disant il y avait une bouteille d'eau en plastique devant ce cadre incroyable et ce site de fou au bord de l'eau sur la côte de Granitros, et c'est un scandale. Voilà. Donc on ne peut plus, on doit adapter nos comportements, tout le monde, et l'hôtelier est le premier à devoir les adapter. Donc étant père de famille, on se pose ces mêmes questions, on est dans le circuit court, on est dans tous ces sujets, on n'est pas encore parfait, mais on y travaille, voilà.
On reste ensemble et on continue à parler hôtellerie française aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et dormir dans un lieu atypique, c'est aussi le credo sur lequel s'est positionné le fondateur de Coucou. À tout de suite.
On parle de l'hôtellerie et de son renouveau dans la France bouge cet après-midi. On attend d'ailleurs vos réactions au 3921 ou vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
Dormir en dehors de chez soi, c'est aussi vivre une expérience. Et pour la pousser au maximum, certains ont développé de nouveaux concepts. Bonjour Gaspard de Moustier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. En 2009, vous avez choisi de changer de vie. Vous quittez la banque parce que vous étiez dans ce secteur et vous revenez à vos attaches familiales, c'est-à-dire en Franche-Comté, et vous décidez de créer des cabanes et de vous lancer dans l'écotourisme.
Oui, effectivement, je travaillais à l'époque dans une banque, je finissais mon master de finance à Dauphine, et j'avais cet endroit familial en Franche-Comté qui est une ancienne gravière, Franche-Comté qui est une zone évidemment excessivement touristique comme tout le monde le sait, et le but ça a été de se dire comment est-ce que d'un endroit qui est vraiment un bijou de nature, une pépite, comment est-ce qu'on arrive à en faire une vraie destination touristique, sachant que personne n'y va, même en se perdant, globalement. Et donc, c'était le tout début du concept des cabanes à l'époque qui se développait, bien avant la mode du green, du produit local, etc. Et j'ai décidé de créer un des premiers villages de cabanes en France, avec des cabanes qui, à l'époque, n'étaient pas équipées, assez rustiques, par contre, qui répondaient directement à des vrais codes de l'hôtellerie en termes de service, de confort, etc. Et on a réussi
avec des vraies chambres, hein, des vrais lits, des
vrais lits, des vraies couettes, etc. À l'époque, avec des toilettes sèches dans ces cabanes-là. Ce qui est d'ailleurs pas du tout encore un problème aujourd'hui, si on travaille toute l'expérience qui est autour. Et on a très vite atteint, entre le mois de mars et le mois de novembre, un taux d'occupation de 80%, qui, encore une fois, en Franche-Comté, est assez exceptionnel quand la saison touristique dure à peine quelques semaines. Et je pense que ce succès est dû à une vraie immersion au cœur de la nature et une vraie authenticité dans le projet qu'on a porté, notamment en créant tout de suite, et encore une fois bien avant la mode, un vrai écosystème de producteurs locaux, parce que moi, franc-comtois, élevé à la saucisse de Morteau, j'ai été voir tous les gens qui sont autour du site, le boulanger, le restaurateur, l'apiculteur, etc., en disant, bah, écoutez les gars, je suis en train de monter un site, est-ce que vous voulez bien m'aider avec vos bons produits? Et les gens ont été très sensibles à ça dès le début, parce qu'ils ont senti une vraie émotion en venant passer un séjour chez nous.
Alors ça, vous le faites en Franche-Comté, et puis très rapidement, vous allez rencontrer celui qui est devenu votre partenaire, on est en 2013, et vous allez ensemble décider d'ouvrir ailleurs, notamment en Picardie.
Exactement, j'ai la chance d'avoir rencontré Emmanuel, qui est un associé délicieux, et on a ouvert chez lui en Picardie, à 60 km au nord de Paris, au domaine de Rarey, les cabanes des Grands Chênes, en 2015, donc 5 ans quand même après le premier, où là, on a décidé d'adapter le concept à l'endroit, on est à côté de Paris, il y a un golf, il y a un hôtel, il y a un resto.
Donc on est dans des cabanes de luxe.
On est dans des cabanes de luxe, mais alors le luxe, ça veut un peu tout et rien dire, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et là, l'idée, ça a vraiment été de se dire, il faut qu'on adapte le concept à l'endroit, donc on équipe nos cabanes avec l'eau, l'électricité, des jacuzzis en bois sur la terrasse traités avec un système de traitement d'eau écologique, etc., pour que l'expérience colle avec le lieu. Et c'est quelque chose qu'on répète maintenant dans chaque endroit, c'est qu'on fait une vraie analyse du lieu pour que le projet qu'on design s'intègre parfaitement dans l'endroit. Donc on n'a pas du tout de produits standards et je pense vraiment que c'est quelque chose que les gens viennent chercher chez nous parce qu'il y a une réelle authenticité dans ce qu'on développe.
Oui, parce que vous ne vous êtes pas arrêté à deux. Hein. Il y a eu un autre projet en 2016, un autre en 2017. Vous avez 4 sites aujourd'hui et 60 collaborateurs.
Aujourd'hui, on a 4 sites, on est 60 collaborateurs. On fait un peu moins de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a 5 projets en cours, des projets qui sont des bijoux, des vrais bijoux de nature. Alors nous, on a une contrainte, c'est qu'on s'implante dans des lieux naturels d'exception. Donc on met au moins 2 ans à avoir les autorisations parce qu'on est dans des zones Natura 2000, etc. Mais encore une fois, on n'a pas une vocation de, parce qu'on a la grosse tête, d'en ouvrir 50 et d'en mettre dans tous les sens. On veut encore une fois ouvrir que des bijoux. Et ça passe par des sites qui sont des vrais paradis de nature. Donc il y a quelques contraintes administratives, mais très vite on arrive à prouver qu'on arrive très bien à combiner des projets économiques hôteliers avec une vraie valorisation de l'environnement.
Avec une valorisation de l'environnement et avec aussi une redistribution, puisque 20% des résultats vont aux équipes.
Oui, alors ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui est très important chez nous, c'est le caractère humain et les valeurs humaines de notre entreprise. Alors, on en parle beaucoup et c'est souvent, ça veut tout et rien dire, mais effectivement, on est basé sur une organisation assez collaborative où nos directeurs de site et leurs équipes sont très indépendantes. On leur confie vraiment les clés de leur éco-domaine. Comme on est une entreprise dynamique en plein développement, on a besoin d'avoir une équipe très solide. Donc effectivement, on partage 20% des résultats entre tous les membres de l'équipe.
Elisabeth, dans l'hôtellerie solidaire aussi, il se passe des choses.
Oui, vous connaissez Solikend ?
Oui.
Génial ! C'est une start-up qui propose de réserver votre chambre d'hôtel au profit d'œuvres caritatives. Le paiement de votre séjour est intégralement reversé à l'association de votre choix. Et là, justement, à l'approche des fêtes, Solikend lance une carte cadeau. Vous pouvez donc offrir une nuit d'hôtel et tout est reversé à l'association de votre choix. Début 2020, il y a un Beauvaisien qui va lancer le site moonvoy.com. C'est une plateforme solidaire de réservation en ligne d'hôtels et de maisons de luxe partout dans le monde. Et là aussi, au moment des comptes annuels, eh bien, il restera le bénéfice et 10% iront pour moitié à une association caritative et l'autre moitié à une association écologique.
Gilles Van Der Potten, le coach.
En parlant de plateformes, on sait que des plateformes que je ne nommerai pas étranglent parfois un peu les hôteliers en prenant des pourcentages jusqu'à 20% de frais. Vous, est-ce que vous avez besoin de ces plateformes ?
Alors nous, chez Coucou, on vend 85% en direct. On tient vraiment à avoir ce lien avec nos clients parce qu'on a une exigence qui est très importante, c'est d'étonner nos clients et de les bichonner. Et on ne veut pas céder ça à des plateformes qui potentiellement peuvent ne pas avoir cet intérêt premier en tête. Et donc, on vend 85% en direct, le reste étant vendu par une marketplace dans l'hébergement insolite et écologique qui s'appelle Abracadarum, dont on est actionnaire. Et donc, on sait que ça respecte nos valeurs. Mais sinon, on tient vraiment à ce lien. Et je pense que c'est pareil maintenant dans l'hôtellerie. On parlait de l'hôtellerie de chaîne tout à l'heure, où il faut justement avoir ce lien avec les clients parce que les clients sont prêts à payer cher, sont prêts à... Mais par contre, ils veulent que ce soit vrai, authentique et pas se faire avoir.
Et on n'a pas spécifié, mais coucou, ça s'écrit C-O-U-C-O. Pour
exactement.
Ceux qui vous chercheraient. On reste ensemble et on continue à parler hôtellerie française aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
On vous attend, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Si vous avez des remarques ou des questions à poser à nos invités, c'est la France qui bouge avec vous.
Dans la France bouge cet après-midi, Raphaël, on parle du renouveau de l'hôtellerie avec vos invités.
Solène Devis, cofondatrice de Oko, O de K.O., une chaîne d'hôtels 4 étoiles, libérée des contraintes de l'hôtellerie traditionnelle. Jean-Philippe Cartier, président du groupe H8 Collection, une chaîne d'hôtels de luxe français. Gaspard de Moustier, cofondateur de Coucou, COUC de Zoo, spécialisé dans l'écotourisme et l'hôtellerie alternative. Évidemment, notre coach, c'est Gilles Van Der Potten, directeur de Reporters des Sports et de la France des Solutions, à mes côtés. Bien sûr, Elisabeth Assayagela. On parlait hors micro de cette tendance. Finalement, vous avez trois offres très différentes tous les trois. Et pourtant, il y a des choses qui vous relient. C'est ce besoin de valeur et de sens dans chacune des propositions que vous faites, Solène.
Oui, je pense que ça... Alors bon, c'est les modes de consommation qui ont totalement évolué. Aujourd'hui, les voyageurs, que ce soit de loisirs ou d'affaires, comme tout un chacun, se posent un certain nombre de questions sur l'hôtel dans lequel ils vont séjourner. Est-ce qu'il a une politique, notamment éco-responsable ? Donc nous, quand on a lancé Oko Hôtel, dès le début, on a eu des partis pris très forts. Mettre des douches et pas des baignoires, supprimer les mini-bars, proposer des produits, là je rejoins Gaspard, de producteurs locaux. Aujourd'hui, on arrive à faire 25% de nos achats en valeur à moins de 100 km de nos établissements. On a supprimé les bouteilles PET de nos établissements au profit de fontaines. Ce sont des petites initiatives, mais qui sont extrêmement bien perçues des clients, alors que très souvent, dans le haut de gamme, on a peur de quelle peut être la réaction. Et en fait, nos clients nous ont prouvé qu'ils étaient parfois bien plus prêts que nous à se lancer dans l'écologie.
Oui, ce sont les clients qui poussent, Jean-Philippe Cartier.
Je pense, nous, on a aussi une partie de clients étrangers. Et il est clairement établi que ces actions sont remarquées à la première seconde, sans tomber dans l'excès. Je lisais hier, vous avez peut-être entendu le groupe Coldplay qui voyage moins, qui va prendre moins l'avion pour qui va faire moins de concerts, donc moins gagner sa vie.
Le trajet de la tournée.
Ça marque tout le monde. C'est assez remarquable quelque part. Donc on est tous, enfin je parle pour tous les trois, mais tous sensibles. Et après il y a des démarches plus personnelles puisque c'est des groupes, ce sont nos groupes familiaux ou en tout cas personnels. Et donc il y a une démarche très personnelle. On veut pas laisser la même chose que ce qu'on nous a laissé sans tomber. Sur c'était mieux avant ou ça sera mieux après. Je pense qu'on a tous conscience, on en a tous profité de la meilleure manière qui soit, mais l'axe écologique est clé. Moi, je peux m'énerver enfin, sur des clients qui ont des comportements que j'estime inacceptables.
Et vous vous énervez sur les clients ?
Enfin, moi, personnellement, mais il y a eu des comportements dans des chambres d'hôtels de luxe où les gens... Il y a une prise de conscience générale, c'est fondamental. Celui qui ne l'a pas compris, je pense que ça a un impact aussi business, puisqu'on est là aussi pour pas, on monte des entreprises aussi, on peut faire de l'éco-responsabilité, on peut redonner à ses salariés, c'est très bien. On embauche déjà 250 personnes dans un pays où c'est un métier, dans les régions c'est plus compliqué, Paris c'est autre chose. En région, quand t'es dans les Hautes-Loires ou quand tu relances un hôtel au Pont du Gard, ben, je peux vous dire que la mairie et le préfet et le président de la région, ils sont très contents parce que c'est pas Paris où il y a une affaire tous les 20 mètres. Donc une fois qu'on a dit ça, ben, on se doit de faire marcher nos affaires et d'aller avec l'évolution actuelle.
Gaspard ?
Oui, moi ce que je rejoins exactement ce qu'on s'est dit, même si on a chacun des positionnements un peu différents, mais d'une manière générale, ce qui compte, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Et je pense que nos clients aujourd'hui cherchent évidemment une prestation, il faut que ce soit qualitatif, il faut que ça réponde à leurs attentes, mais ils sont aussi très sensibles à l'humain qu'il y a derrière et les raisons pour lesquelles on le fait. Et comme le disait Jean-Philippe, il faut pas avoir peur vis-à-vis des clients de justifier certaines choses. Si on le fait avec une vraie réflexion, une vraie vision à long terme sur des sujets comme ça aussi sensibles, les clients qui veulent pas le respecter, bah, ils vont ailleurs, mais généralement, les gens le comprennent très vite.
Gilles Van Der Potten.
Bah, pour que la France garde son leadership, puisqu'on est numéro un du tourisme, sans doute il faut accélérer le type d'initiative que vous entreprenez à caractère écologique, social, écosystémique, travailler avec les producteurs locaux. Est-ce qu'il existe des lieux où vous partagez vos bonnes pratiques avec d'autres acteurs de l'hôtellerie? Ou est-ce que c'est encore un peu perso, sachant que...
Tu disais, pourquoi la France est numéro un? Avant tout, parce qu'on a ce patrimoine, faut pas l'oublier.
Oui.
Je radote, mais quand tu pars de la Camargue à la Provence, tu fais cette route en voiture, tu dis, il y a que ce pays qui te permet en une heure de vivre des expériences aussi dingues.
Enfin,
la Haute-Savoie est formidable.
On parle pas de la
Franche-Comté. Non, la Franche-Comté, c'est remarquable. La Picardie aussi, pardon, la Bretagne. Je veux dire, on a un pays formidable. Et donc, il faut promouvoir ce pays. C'est notre atout premier. Après, l'expérience client, c'est un autre sujet. Et que les gens veuillent vivre. J'allais dire tout à l'heure, avant, le luxe, c'était d'avoir une énorme chambre, d'y rester 8 heures, de prendre sa coupe de champagne. J'en sais rien. Aujourd'hui, le luxe, c'est l'expérience. Vraiment.
Mais dans les arbitrages, cette dimension écologique va monter, forcément.
Dans les arbitrages, la partie expérience liée aussi au bon comportement fait partie de toutes les discussions qu'on a dans les hôtels de demain et dans les hôtels actuels qu'on gère.
Donc le secteur se concerte sur ces questions-là?
Je pense qu'on se pose tous les bonnes questions, en tous les cas autour de la table, il n'y a pas de doute.
Oui, ça c'est certain, Gaspard de Moustier, Solène Nevis.
Je pense qu'il y a aussi une chose qui est très importante, comme le disait Jean-Philippe, c'est la richesse de nos territoires. Il y a de l'hôtellerie parisienne, il y a de l'hôtellerie dans les très grandes villes, où il y a également toutes les bonnes pratiques, mais on a aussi des territoires en France qui sont des vrais bijoux. Des bijoux de nature, des bijoux de produits. Je parle de la Franche-Comté, mais je pense objectivement toutes les régions de France. Et je suis convaincu aujourd'hui, avec les évolutions de mode de consommation, que les gens vont rechercher de plus en plus ces régions-là où il y a une vraie authenticité, des produits merveilleux, des rencontres à faire et qui vont un peu casser ce quotidien très connecté, très stressant. L'équilibre est intéressant, je trouve.
Elisabeth, on vous entend, hein, vous êtes en train de tout changer dans ce secteur de l'hôtellerie, en train de tout révolutionner en prenant en compte ce qu'on recherche actuellement en termes d'écologie, en termes de responsabilité, mais il y a aussi quelque chose, je rebondis sur ce que vous disiez du côté des clients, tous les clients n'agissent pas ainsi, donc y a-t-il aussi quelque chose, une forme de pédagogie aussi à mettre en place au sein de vos structures à destination des clients?
On comprend assez vite ce qu'on fait, nous. Je veux dire par là qu'on a des 35 ou 40 chambres, donc on a des clients très récurrents, des gens qui viennent justement chercher ce qu'ils savent qu'ils vont trouver depuis plusieurs années, aussi bien à La Fouque, aussi bien à Haute-Loire, aussi bien à Uzès. Enfin, je veux dire, on a des clients qui cherchent ça, nous. Et vous parliez tout à l'heure des bookings et compagnie. Nous, on est à 90% en direct parce que j'en connais l'hôtel dans lequel ils veulent retourner. On a des gens qui viennent 4 à 5 fois par an, parfois, dans un hôtel de loisirs. C'est beaucoup.
Donc, il y a une certaine forme de fidélité.
Ah bah évidemment, une énorme forme de fidélité. Il faut bien connaître ses clients, c'est très
chez
important.
Chez vous, chez Oco les cabanes coucou.
C'est très fort, et pour répondre à ta question, on se rend compte aujourd'hui que les gens sont prêts à faire... Je crois qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que 40% des gens sont prêts à allonger leur temps de trajet ou que leur temps de trajet coûte plus cher pour avoir un impact écologique plus faible sur leur déplacement. Et je veux dire, c'est des tendances de fond qui sont vraiment très importantes et nous, on se doit de les porter et de répondre aussi aux attentes de nos clients parce que demain, ce sera essentiel.
Demain, ce sera essentiel. C'est une belle phrase pour conclure. Merci à tous les trois d'être venus débattre avec nous de cette
hôtellerie française en plein renouveau.
Il est 13h48.
Europe 1.
On reste ensemble et on va partir pour Saint-Étienne. On voyage et on va aller découvrir l'entreprise qui va bien, c'est la chocolaterie Weiss. A tout de suite.
Il est 13h49, la France bouge, continue et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, figurez-vous que c'est une chocolaterie, la chocolaterie Weiss. Bonjour Eric Bouzard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous, c'est vous qui dirigez cette vieille dame, on peut le dire, hein, parce qu'elle a ouvert ses portes en 1882. Et ce monsieur Weiss, il a fui à l'époque la guerre, il s'appelle Eugène et il s'installe à Saint-Étienne. Et à l'époque, à Saint-Étienne, eh bien, il y a 25 chocolateries.
Exactement. 25 chocolateries à Saint-Étienne. C'était tout simplement parce que les douanes françaises, les importateurs de fèves, passaient par les douanes à Saint-Étienne. Donc, il y a eu 25 chocolateries. Et la chocolaterie Weiss s'est dit, on doit perdurer dans cette tradition. Et c'est pour ça que Weiss travaille avec un certain nombre d'entrepreneurs locaux, comme vous pouvez voir, la Rubannerie. Tous nos coffrets sont avec des rubans de Saint-Étienne. Les sacs sont faits à Saint-Sigolène, à côté de Saint-Étienne. Les coffrets dans la région Rhône-Alpes. Et en fin de compte, on a une tradition autour de l'artisanat, pour nous, qui est extrêmement important, parce que Weiss est une entreprise du patrimoine vivant. Eh ben, ce label nous permet de défendre l'artisanat et pour nous c'est quelque chose qui est très cher.
Tout est fabriqué sur place dans la région de Saint-Étienne, le chocolat, le praliné, les confiseries, parce que ça fait partie de vos spécialités.
Tout à fait. Alors tout est fabriqué à Saint-Étienne, de la fève, de l'achat de la fève, dans 9 régions à travers le monde. Mmh. On torréfie la fève à Saint-Étienne, on fabrique les bonbons et on envoie à travers le monde et en France. Il faut savoir que 30% de nos produits sont exportés aujourd'hui. Un des savoir-faire, Raphaël, je vois que vous êtes une connaisseuse sur le praliné, et un des savoir-faire de la chocolaterie Weiss, c'est l'excellent praliné, notamment la nougamantine.
Alors, vous en parler. C'est une de vos inventions, la nougamantine.
Tout à fait, qui a été créée en 1930, juste après le napolitain, qui était le petit chocolat
de voyage.
Exactement, qu'on retrouve sur le café. Et la nougamantine, elle est faite dans une coque de nougatine avec un délicieux praliné fondant à l'intérieur.
Dites-moi, Eugène Weiss, il est quand même précurseur parce que je regardais, mais en 1912, grâce à lui, on peut commander ses chocolats et se les faire livrer. Ouais.
C'était la première, j'allais dire, livraison ou vente à emporter à l'époque. C'était dû à la manufacture qui était à Saint-Étienne, qui avait un catalogue, il s'en est inspiré.
Petit à petit, la chocolaterie s'est davantage tournée vers les professionnels. Vous avez travaillé avec des grands noms. On pense à Raoul Méder, par exemple, Régis et Jacques Marcon. Vous fournissez des pâtissiers locaux. Vous êtes toujours dans la recherche de nouveaux produits, finalement.
Hein. Exactement. L'innovation, pour nous, est quelque chose de fondamental. On travaille avec les chefs, j'allais dire, en co-construction. Pour nous, c'est extrêmement important. Vous parliez de Raoul Méder, qui a créé les pépites de chocolat savoureuses. Je pense aussi à Michael Risp, qui est un boulanger qui s'appelle Pan et Gâteau à Annecy, qui fait des bijoux. Je pense aussi à Christophe Roure, le 9e art à Lyon, qui fait toutes nos recettes pour notre restaurant à l'atelier. Vous avez parlé de Régis et Jacques Marcon. Bien évidemment, j'ai envie de dire, c'est des enfants de Weiss. Vous savez qu'on, grâce à eux, on a mélangé le champignon, le cèpe avec le chocolat, un choco-cèpe. Et quand vous allez manger chez Régis et Jacques Marcon, dans un 3 étoiles, vous avez un choco-cèpe. Mais je voudrais rajouter une chose, Raphaël. Je veux pas oublier la nouvelle génération. Quand je pense à des gens comme Quentin Le Chat, Novotel Léal, allez goûter ce que fait Quentin Le Chat. C'est une pure merveille avec le chocolat. Je pense à un dernier, à Maxime Frédéric, qui a reçu le prix du meilleur pâtissier au prix de la gastronomie à Lyon et qui va ouvrir la Samaritaine dans quelques temps.
Donc vous leur fournissez la matière première.
Exactement.
Et vos produits, alors parce que quand même, il faut le dire, ils sont garantis sans OGM et vous allez chercher le lait, le sucre en France.
Tout à fait.
Vous faites un maximum de choses made in Saint-Étienne,
made in France. On fait made in Saint-Étienne, made in France. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on est sans OGM, on est sans lécithine de soja, on est sans colorant. On est sans huile de palme, on est sur un lait 100% français qui est fait à Saint-Malo et un sucre 100% français.
Ça vous plaît, non, Gilles Vander Potten?
Ça me plaît beaucoup et parfois je m'inquiète d'entendre que le cacao est en voie de raréfaction. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez, qui a un impact pour vous?
Alors, on fait extrêmement attention à nos fèves de cacao, puisqu'on travaille aujourd'hui avec une ONG qui va auditer tous nos producteurs de cacao. Et nous, notre objectif, ce n'est vraiment pas de réduire la matière première qui est essentielle, c'est de la préserver. Veille, ça a un rôle social et sociétal extrêmement important. Sur ça, je fais une petite parenthèse. Quand j'entends le Black Friday, où on va créer de la surconsommation, on va pas faire attention aux matières premières, Veil ne s'inscrit pas dans ce schéma. On fait attention aux produits, on fait attention à nos producteurs, et pour nous, c'est extrêmement important. Et pour terminer sur ce point-là, je voudrais faire un petit clin d'œil à tous les salariés de la chocolaterie Veil.
Ils sont combien,
ils sont 125. Ils sont extraordinaires. Mais je peux vous dire, ils sont d'un professionnalisme.
On peut aller les voir, d'ailleurs, parce que vous avez ouvert les ateliers.
Oui. On peut aller visiter à travers l'atelier. Il y a une galerie qui passe au-dessus de l'usine. Et pour les gens qui veulent venir, on est prêt à ouvrir nos portes. On ne cache rien. Et je voudrais faire un petit clin d'œil vraiment à eux parce qu'on est en pleine période de Noël. C'est une très, très grosse période pour nous. À tous les gens qui travaillent à la chocolaterie. Je pense à toutes les équipes qui travaillent dans les boutiques Veils qui sont extrêmement importantes. À Strasbourg, Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Et à toutes nos équipes de commerciaux, qu'ils soient en France ou à l'étranger, qui sont toujours au contact des chefs.
Il y a énormément de sens dans cette chocolaterie. On sent qu'il y a des valeurs qui sont portées. On discutait tout à l'heure avec nos invités précédents sur l'hôtellerie de ces valeurs justement et de l'implication écologique qu'il y avait aujourd'hui. Vous travaillez également là-dessus, ouais, sur la réduction d'eau, la réduction d'électricité. Vous alimentez en électricité verte notamment.
On est 100% électricité verte. On est dans des programmes de réduction de gaz et d'eau aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement important. J'aimerais dire, pour nous, moi, j'estime qu'on n'est qu'au début d'une histoire. On voudrait aller beaucoup plus vite, mais on est une petite entreprise, comme vous le disiez très justement, Raphaël. Quand on est 125, on n'est pas nombreux, mais on y va et on a des vraies convictions. Et chez nous, tous nos salariés, on est convaincus que la chocolaterie Veils a un rôle social et sociétal extrêmement important pour l'avenir.
La suite, c'est quoi chez Veils?
Plein de projets. Je ne peux pas tout vous dévoiler parce qu'on est dans un univers extrêmement concurrentiel, mais plein de choses gourmands avec des développements encore à l'export, encore en France. Et ce qu'on voudrait, c'est continuer à développer la notoriété tout en gardant notre artisanat.
C'est la chocolaterie Veils. Merci d'être venu nous raconter une partie de son histoire, Eric Bouzard. Merci à Gilles Vanderpotten qui était notre coach. Elisabeth,
à demain,
Céline,
à demain. C'était Raphaël Duchemin et dans un instant, vous retrouverez Christophe Ondelat sur Europe 1.